Bonjour et bienvenue sur Monnaie Libre. Je reçois aujourd'hui pour une nouvelle émission notre ami Jean-Baptiste Bersac. Salut JB.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Alors Jean-Baptiste, un spécialiste du néo-chartalisme, le premier à en avoir parlé en France et puis à avoir édité donc ce fameux premier livre sur le néo-chartalisme en France.
En français, oui.
Ouais, donc alors qu'on peut retrouver sur ton blog d'ailleurs qui s'appelle Frapper Monnaie, ton blog.
.wordpress.com. Frapper voilà. À l'infinitif et Monnaie au singulier.
Voilà, néochartalisme donc qui est une théorie complète sur l'économie et qui traite.
Sur l'économie peut-être pas, mais sur la monnaie, oui.
Et sur la monnaie en partie, mais sur l'économie aussi un peu quand même, forcément. Parce que dès qu'on parle monnaie. Un petit peu d'économie.
Effectivement, on parle un peu d'économie, mais c'est pas complet sur l'économie. C'est vraiment une théorie monétaire. D'ailleurs, un de ses noms, c'est MMT, Modern Monetary Theory.
Oui, c'est vrai. C'est aussi un de ses autres noms. Alors, donc, on va parler dans cette émission de trois thèmes importants et puis un peu actuels. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement entre la BCE, la Fed, les BRICS? Il y a beaucoup de choses. Il va falloir qu'on fasse un peu le point. Il faut quand même, c'est bien de t'avoir parce que c'est bien d'avoir un économiste qui s'occupe aussi de ce qui se passe dans l'actualité sur les monnaies dominantes, parce que c'est bien de les faire de l'innovation, mais il y a aussi ce qui existe. Et puis, on parlera aussi dans une deuxième partie d'une critique qu'on pourrait faire sur les économistes qui tiennent un peu le haut du pavé sur les médias dominants aussi. Pour voir en quoi on peut les critiquer sur leurs positions, d'ailleurs souvent divergentes, on y reviendra. Et puis enfin, une troisième partie, on reviendra un peu sur une part, une discussion entre nous, peut-être un peu plus théorique, sur certains fondements axiomatiques ou épistémologiques du néochartalisme et de la théorie relative de la monnaie, de savoir quels sont les points fondamentaux sur lesquels, eh bien, forcément, on va avoir des analyses, des définitions aussi, des choix divergents, donc qui mènent à des différences ensuite sur le développement. Donc alors, première partie, Jean-Baptiste, qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc on vit, notamment en Europe, mais aussi dans le monde, quelque chose d'assez nouveau, en tout cas qui est difficilement analysé par les discours dominants, je dirais. Les banques centrales tiennent le haut de l'initiative actuellement, et notamment en Europe. La Banque Centrale Européenne a annoncé un fameux QEA européenne, avec pas loin de, je crois, 10% de la monnaie par an utilisée dans ce QE, je crois.
Alors, oui, en fait, le QE se généralise. Pour donner une image générale de ce qu'on va dire qui sera nettement plus technique, c'est un peu comme si... le conducteur de la voiture avait les freins qui répondent plus, et il avait beau couper contact, il est en descente, ça marche plus. Et du coup, il est sur le volant et il essaie de surtout bien prendre les virages sans partir au-delà de la barrière et de la falaise. On a, en fait, le QE se généralise partout, c'est-à-dire, en vérité, le QE, la BCE en faisait déjà plus ou moins avant. Je vais pas rentrer dans le détail technique, mais en gros, il y avait des petites variantes de conditions techniques qui faisaient qu'elles disaient que c'était pas la même chose. Mais c'était fondamentalement le même principe, c'est-à-dire on rachète des actifs de manière à ce que les gens fassent, enfin les financiers, les financiers, soyons clairs, soyons précis quand même.
Oui, c'est important de le dire parce que souvent pas... quand on parle de cette injection de monnaie, on dit c'est bien pour les marchés.
Officiellement, c'est pour relancer l'économie. En pratique, c'est la dernière chose que ça relance. Ça relance les bourses, ça relance les obligations, ça relance le milieu financier en général. Mais l'économie réelle, elle est heureuse si elle en touche quelques miettes, quoi.
Oui, mais alors ça veut dire quand même ça. Alors ça, c'est un point justement qu'on pourra sans doute développer dans la deuxième partie, mais c'est souvent dit que c'est bien pour l'économie parce que ça permet aux actions de monter, etc. Mais évidemment, ça concerne que ceux qui ont des actions. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a quand même là, on voit très clairement le privilège qui consiste à être proche du robinet. Hein.
Voilà, c'est extrêmement biaisé parce que si, en fait, c'est plus vous êtes un financier important, plus vous bénéficiez de ça. Parce que c'est celui qui a le plus d'actifs déjà acheté, qui va bénéficier de ses rachats. Donc si on est déjà pauvre, bah en fait on ça profite pas. Et aussi, même si tu veux entre guillemets participer à la danse, tu vas ne pouvoir le faire qu'à mesure des témoignages. Alors certes, tu peux théoriquement emprunter, spéculer en bourse, etc. Mais c'est pas, même si c'est vrai que la bourse est du coup un peu sur escalator, quoi. Ça monte tout seul. Dès qu'il y a le moindre coup, on en remet un, la banque centrale en remet un coup.
Mais est-ce que c'est légitime alors par rapport au
Alors,
reste de la population?
par rapport au reste de la population, certainement pas. Mais ceux qui décident et qui sont les financiers, eux, trouvent ça très très légitime. Et si ça relance suffisamment leur porte-monnaie, ça relance proprement dit très bien.
Mais
Voilà.
la question de la légitimité, elle n'est jamais abordée d'ailleurs à ce niveau-là.
Ah bah ils ont un... Alors, elle est jamais abordée, ça dépend par qui. C'est-à-dire que quand tu regardes des mouvements comme Occupy Wall Street ou d'autres, si si, c'est abordé. eux aussi l'abordent, c'est-à-dire quand ils font lip service, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on se paie de mots, pour donner une traduction en français, où ils disent ça relance l'économie, etc. Bon, tout le monde sait que c'est faux, eux les premiers. Ou que c'est infinitésimalement vrai par rapport à ce qu'il faudrait d'une part et à ce qu'il pourrait faire s'il faisait du déficit public. Mais ils éprouvent quand même le besoin de relégitimiser un peu leur action, de revernir un peu. Parce qu'ils savent au fond qu'il y a justement un gros problème de légitimité socialement, au sens de la société en général, et pas juste leur cercle de pouvoir. Mais dans leur boîte à idées, parmi ceux qui leur plaît à eux, et qui est donc pour que ça leur plaise, il faut que ça conserve, voire accroisse, tant qu'à faire, leur position dominante, il n'y a pas mieux que le QE. C'est le plus proche de ce qui pourrait enfin,
Alors, est-ce qu'on
relancer.
pourrait résumer le QE, Jean-Baptiste? Moi, j'ai cette image en tête. Je me la suis construite moi, hein. C'est pas en écoutant, c'est en essayant d'analyser individuellement et personnellement. C'est de dire, ben, en fait, j'ai des actifs, alors ça peut être des bons du Trésor, ça peut être des titres de dette que j'ai, des subprimes, des choses comme ça, bon, peu importe, tout type d'actifs, des actions, n'importe quoi. Donc des titres de propriété, in fine. Hein. J'arrive pas à les revendre sur le marché parce que, en fait, bah, ils sont déjà valorisés à leur maximum en quelque sorte, ou carrément ils ont perdu leur valeur, même en fait,
Alors c'est pas qu'ils
au
n'y arrivent
titre du
pas,
marché, c'est qu'il
on
n'y a
y
pas
arrivait déjà
d'acheteur,
très bien,
mais.
simplement, comme ça, en fait c'est ça le
J'ai
truc,
pas fi... Attends, laisse-moi
ok,
finir quand même. Donc j'arrive pas à le faire sur le marché, ou ça m'arrange pas, ou en tout cas c'est pas. Globalement, disons, si tout le monde le fait en même temps, ça marche pas, parce qu'il n'y a pas d'acheteur en fait, et du coup, c'est le public. Parce que la Banque centrale, in fine, est censée être publique, parce qu'elle est détenue par les États, qui sont censés représenter le public. Voilà, en fait, en pratique, sont détenues par les banques centrales. Donc il faudrait se poser la question, à qui appartiennent les banques centrales? Parce que il
Il y a
semblerait que.
effectivement un objectif
Mais
de...
je finis. Et donc, c'est la banque centrale qui joue le rôle de racheteur. Et donc, ils transforment leurs actifs, qui sont des actifs non monétaires, en monnaie, qui, elle, après, leur permettra de faire de nouveaux investissements. Donc ça revient finalement, si j'étais un particulier, à dire j'ai un vieux grenier, j'ai plein de trucs, je sais que si j'essaie de le vendre, je vais pas y arriver ou ça va être très long, ça va me prendre 20 ans. Alors que là, j'ai la mairie qui me propose de me racheter mon grenier au prix du neuf. Parce que c'est un peu ça, au prix du neuf, ce qui me permet de récupérer beaucoup d'argent, par exemple 50 000 euros en liquide, à la place du grenier que j'ai, et ça va me permettre d'investir pour me faire une piscine dans le jardin.
Bah malheureusement, si c'était ça, ce serait beaucoup mieux. En fait, ce qui se passe, c'est que y a non pas un grenier qu'on n'arrive pas à vendre, mais un grenier, même flambant neuf, qu'on a déjà vendu, il y a la date qui est prévue, il faut que juste que le montant soit enfin versé et puis que les clés soient échangées. Et la banque centrale dit non, ça va pas. Écoute, tu fais fortune, ça va très bien pour toi, mais le problème, c'est que l'économie réelle en dessous, elle va pas assez bien. Donc, il faut la relancer. Et en fait, je rachète, je fais en sorte que toutes les opportunités de vente, etc., comment dire, soient vendues immédiatement. C'est-à-dire maintenant, si tu veux à nouveau faire des affaires, bah, tu as du cash et démerde-toi pour trouver une opportunité. Quand bien même tu pouvais emprunter par rapport au paiement que tu devais recevoir pour le grenier en question pour financer notre affaire, ça tu pouvais le faire sur demande, on s'en fiche. Tu as quand même le paiement maintenant, voilà, point. Va chercher une opportunité, n'importe laquelle, débrouille-toi. Même si c'est une bulle, c'est pas grave, une bulle spéculative, tout ce que tu veux, fais quelque chose. Et c'est ce qui se passe. Et le problème, c'est que c'est vraiment une tentative désespérée, faut bien le comprendre, parce que C'est pas parce que on avance entre guillemets les comptes des financiers que l'économie réelle va mieux. Il faut qu'ils aient envie de dépenser, mais ils n'ont pas envie de dépenser, et encore moins d'investir dans l'économie réelle parce qu'elle va mal. La seule zone qui est parvenue à vraiment relancer le crédit, c'est la Chine, mais ça fait peur. C'est-à-dire, eux, ils ont le parti qui fait pas. C'est beaucoup moins mou qu'une banque centrale qui leur dit mais allez-y, quoi. Donc, ils ont reçu leurs ordres, ce qui fait qu'entre 2007 et 2014, ils ont doublé le pourcentage par rapport au PIB des crédits émis à l'économie. C'est passé de 100% du PIB à 200%. C'est-à-dire qu'ils ont rejoint en quelques années les niveaux occidentaux qui sont stratosphériques. Et ils l'ont fait via de nombreuses bulles, c'est-à-dire nous il nous faut pour le logement qui est pourtant déjà très 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 probablement en état de bulle, il nous faut 4 à 5 années de salaire moyen plein. Eux ils en sont à 30 années dans des villes comme Shanghai, etc. Enfin,
et à côté des villes fantômes où il y a
personne. Et il y a aussi des villes fantômes.
Qu'ils ont construit avec beaucoup de logements, qui sont magnifiques, mais il n'y a personne en fait.
Voilà, je te donnais un exemple, mais effectivement c'est plus généralisé, et c'est pas le seul domaine. Ils ont aussi un gros ralentissement économique parce que ceux qui importaient leurs produits périclitants, bah, ça fait moins d'importations, donc moins d'activité chez eux. Ça se voit au fret, ça se voit à pas mal d'indicateurs, c'est-à-dire si on regarde pas les chiffres officiels directs, mais qu'on gratte le vernis. Et donc eux, là il y a des rumeurs de plus en plus persistantes, et à mon avis fiables, de QE. De toute façon ils ont déjà fait, ils ont vraiment tout fait à l'occidental. C'est très impressionnant, la Chine c'est un peu une sorte d'Occident en hyper accéléré, hyper intensif. Ils ont déjà baissé à mort les taux d'intérêt, ils ont etc. Et donc ils se retrouvent avec des bulles à gérer aussi. Ça terrorise les banquiers centraux, les bulles d'ailleurs, parce qu'ils savent que si ça éclate, le retour de bâton sera massif.
Oui.
Ils ont déjà du mal à relancer l'économie avec des bulles, mais alors si en plus ils laissent une bulle éclater, qui plus est de l'ampleur des bulles actuelles, ils savent très bien que c'est juste mort socialement. Ni les 99% ni le 1% va tolérer ça. Donc, et pourtant ils n'ont pas mieux, parce que c'est l'image que je donnais tout à l'heure. Ils n'ont pas mieux parce que voilà, ils sont coincés. C'est-à-dire s'ils arrêtent.
Ils sont coincés parce qu'ils restent mentalement dans leur logiciel dont ils n'arrivent pas à sortir aussi.
Voilà. Et s'ils font du déficit public. Bah, c'est avouer qu'en fait, ça marche pas au crédit, ça marche à l'épargne. L'économie a besoin d'épargner et non pas d'emprunter. Et ça, c'est tabou, c'est le tabou absolu, ça. Donc on continue prétendument à fonctionner à crédit, donc on fait du Ponzi, mais autant que possible. Et du coup, ça fait aussi des marchés qui sont de plus en plus nerveux parce que tout le monde sait que c'est une bulle. Tout le monde voit d'un côté les fondamentaux économiques se dégrader lentement mais sûrement. De l'autre, les marchés battent record sur record. Il y a un moment, t'as beau dire que t'anticipes la reprise de machin de bidule, enfin tu vois.
L'écart va.
C'est plus crédible.
Ouais. Donc on a l'impression qu'on va revivre encore.
Par exemple, je sais pas si tu.
Distorsion avec.
Tu suis un peu BFM TV, tu vois. Oui. Les types, plus personne ne se cache. C'est même plus Olivier Delamarche qui dit que c'est une bulle contre les autres. C'est tout le monde dit oui, effectivement, c'est une bulle, mais les autres qui disent ouais, on peut encore en profiter.
Oui, c'est ça. Oui, alors c'est ça. Alors ça, c'est incroyable. C'est le discours qui dit oui, c'est pas grave, on peut en profiter. Voilà, on voit que là, typiquement, ça peut pas être un discours d'économiste au sens où. On peut supposer qu'un économiste s'intéresse aux équilibres globaux, voilà, à la limite, mais pas à l'intérêt particulier.
C'est socio-politico-financier, mais certainement pas économique.
Ouais. Mais est-ce que tu penses pas... Il y a deux choses là, que j'ai envie de discuter avec toi, qui me sont revenues. C'est un, est-ce que justement ils s'empêchent de penser les choses autrement, enfin ils sont empêchés de penser autrement, ou ils sont sous pression de ceux qui... détiennent le pouvoir économique ou détenaient le pouvoir économique et veulent le garder en quelque sorte. Ce qui expliquerait que depuis 20 ans, finalement, on n'a pas laissé par exemple les entrepreneurs se développer en France, les nouveaux entrepreneurs. Parce que quand il parle des entreprises, il parle toujours des entreprises installées. Hein, mais les entreprises qui existaient déjà en 20 ans, on voit, je pourrais en citer plusieurs cas d'entrepreneurs, notamment français d'ailleurs, qui avaient développé des activités importantes et qui se sont. retrouvés, disons, ruinés par des manipulations de gens en place, hein, que ce soit des banquiers ou des grandes entreprises d'ailleurs. Donc évidemment, si on détruit les pousses, on ne peut pas s'étonner que 20 ans après, il n'y ait pas de récolte. c'est un peu ça. Et c'est, on ne peut pas rattraper 20 ans de massacre, bien, si on n'a pas récolté. Bon, ça c'est un premier point. Est-ce qu'ils ne sont pas sous pression donc, de ce lobby, il faut l'appeler comme ça, c'est le terme le plus souple. Ça c'est le premier point. Et puis, le deuxième point que je voudrais discuter avec toi aussi, c'est... Bon, on n'a pas dit quand même quelque chose, on a éclairci un peu cette histoire de QE. Donc les banques centrales achètent des actifs parce qu'ils n'ont pas d'autre solution pour essayer de relancer l'économie, ils ne voient que ça. Mais d'où vient la monnaie émise par la BCE pour faire ces achats d'actifs? Parce qu'évidemment, la question que se pose, c'est ça, c'est la question que se pose, et que se posait, mais de moins en moins d'ailleurs, les premiers économistes qu'on voyait discuter, mais la BCE n'a pas le capital, comme si c'était un vrai problème. Bon, alors voilà, donc deux questions, et qu'il faut éclaircir clairement pour nos auditeurs, parce que nous, on n'est pas là pour défendre alors, une position, on n'en a pas.
je vais d'abord répondre à la seconde question qui est la plus simple.
Ouais.
Bien, c'est très simple. En fait, la monnaie, les devises nationales, on va dire, et aussi d'ailleurs pour l'euro transnational, on va dire, sont créées ex nihilo. Ce sont de pures écritures comptables. Et donc, elles sont créées en fonction des besoins, ou jugées-elles, au sein de la banque, de chacune des banques centrales gérant pour chacune des devises.
C'est-à-dire que là où les banques faisaient des crédits aux particuliers, aux entreprises, les banques centrales font des crédits plus gros à des entités plus grosses qui sont les banques elles-mêmes, en fait.
Voilà, c'est ça. Et après, ça circule, tout simplement.
C'est censé circuler.
Oui, voilà, ça circule plus ou moins, mais bon, je veux dire, même quand tu donnes une pièce à un pauvre, c'est un euro de la banque centrale qui circule, concrètement. Ouais. Enfin bref. Donc ça, c'est la première question. Maintenant, pour ce qui est du cadre mental... Alors ça, c'est une question beaucoup plus profonde et beaucoup plus intéressante, j'ai envie de dire. Comment dire, c'est un peu la... C'est multifactoriel et c'est une conjonction qui fait qu'on est bloqué pour l'instant. Ce qui est à la fois plutôt un signe d'espoir, parce que ça veut dire qu'il y a des éléments... le truc n'est pas un tout, une citadelle imprenable. Quoi. Si tu fais tomber certains éléments, le tout peut s'effondrer. C'est friable. C'est que, alors il y a évidemment des logiques de lobby, et là c'est vraiment pas, je parle pas simplement de la logique purement corruptrice du « tu fais ça, je te pète tant », c'est tout le spectre du lobbyisme, et ça commence par le simple refus de considérer les intérêts de tout le monde en même temps, de d'abord considérer ses intérêts et de juger tout ce qui est présenté par rapport à ses intérêts. Pourquoi les financiers poussent dans telle direction plutôt que telle autre? Parce qu'ils y voient leur intérêt. Est-ce que ça fait un ensemble? Ils ont bien conscience qu'il faut quand même que la société fonctionne, que si c'est les émeutes partout, ça c'est pas bon pour eux non plus. Ils ont conscience qu'il faut quand même une économie réelle qui produise ce qu'eux achètent. Mais... le gâteau doit être produit, mais ils doivent quand même en avoir la plus grosse part possible, tu vois, c'est... Et donc, ça va biaiser, tu vois, tout le raisonnement à tous les étages. Pareil pour les politiques aussi, ils agissent... Et là, je vais donner un très bon exemple pour t'indiquer après maintenant un second facteur, qui est justement cette capacité mentale à dépasser sa vision étriquée... individualiste, réductionniste des choses, c'est Olivier Delamarche.
Qui est venu sur Monnaie Libre.
Ouais. S'il y en a bien un dont tu dis, lui, il va pas te raconter des salades sur « mais non, tout va bien, continue à embarquer dans le bateau, le Titanic ne va pas couler », c'est Olivier Delamarche. Et il t'explique très bien qu'en fait, on essaie de faire du Ponzi, que ses crédits vont s'effondrer. Enfin, il a dit, répété suffisamment pour qu'on ait aucun soupçon à son égard. Et pourtant, le même Olivier Delamarche, dès qu'on aborde la question clé du « bon, bah si ça peut pas fonctionner à crédit, c'est donc que ça doit fonctionner d'une autre manière, que en fait, ça fonctionne par épargne, et que par émission monétaire pure, même si on se cache derrière son petit doigt, là, non, refus absolu. Pourquoi cette incohérence, en tout cas de mon point de vue.
Ah, mais je crois qu'il il reste un ancrage profond matérialiste.
C'est-à-dire voilà, que s'il a pas, exactement.
S'il a
il
pas,
reste dans un ancrage profond très matérialiste, très réductionniste,
oui.
Atomiste, entre guillemets.
Oui, c'est ça. Pour lui, le problème, c'est qu'on a lâché les talons d'or, pour faire simple.
Voilà, c'est... et il veut pas comprendre que l'ensemble, la macroéconomie, puisse avoir un fonctionnement propre, des règles propres, qu'il y ait une réalité qui est émergée avec son fonctionnement propre. Donc, qu'on puisse émettre purement et simplement de la monnaie pour le fonctionnement de la communauté, c'est aberrant. C'est exclu. Il ne peut pas... Et tant qu'on fait pas ce saut, tu vois, ça bloque. Et du coup, on est d'autant plus facilement victime... de logique de lobbyisme, etc.
Je voudrais éclaircir ce point quand même d'un point de vue je pense que c'est le bon moment pour le faire. On va parler après des... c'est bien on fait la transition parce qu'on voilà. On a parlé des économistes. Je veux dire, nier le fait qu'on puisse coproduire une monnaie finalement sous forme numérique, c'est nier le fait que le numérique soit de la valeur, tout simplement, ce qui est déjà réfuté par, même si ce n'est pas forcément pour moi un bon exemple, mais c'est un exemple, disons, financier au sens classique du terme, des entreprises comme Microsoft ou Apple, qui ont gagné beaucoup de valeurs économiques en créant des valeurs économiques qui elles-mêmes sont essentiellement numériques. Bon, c'est nier aussi le fait, tout simplement, que quand on dit « je produis une valeur économique », que ce soit à titre individuel ou collectif, au sein d'une entreprise ou d'une association, ou à titre individuel en tant que producteur simple ou inventeur ou quoi que ce soit, parfois sur un support matériel, par exemple je suis un peintre, il prend quoi ? Ben, il prend des choses qui coûtent quasiment rien, hein, un peu de toile, un peu de peinture, ça coûte rien en soi, c'est ce qu'il va mettre sur la toile qui va rajouter de la valeur. Et cette valeur, elle n'est pas dans la matière qui est mise là. Donc il y a bien entre le moment où la matière n'existe pas et le moment après, alors bien sûr il y a le travail bien sûr du créateur, ça vient pas non plus tout seul, mais il y a bien un surajout, il y a quelque chose qui est ajouté, qui n'est pas matériel, qui est de type plutôt immatériel, mais qui n'a pas de valeur en soi non plus, puisque selon la personne qui va voir ce tableau, évidemment, elle aura une valeur économique ou pas, parce qu'il sera prêt à l'échanger éventuellement, ou à l'acheter tout simplement, contre soit de la monnaie, soit autre chose, hein, à la limite, bon, peu importe. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que le processus même de création de valeur économique ou de production est un processus essentiellement immatériel. L'homme ne crée pas de matière. Voilà. Donc nier la réalité de l'immatériel dans l'économie, c'est nier l'économie elle-même. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre au niveau fondamentalement épistémologique, au niveau profond.
Et j'ai envie d'aller encore un petit peu plus profondément.
Donc tu es d'accord?
Oui. je suis d'accord avec une réserve, c'est que eux, c'est pas simplement un raisonnement qu'ils n'auraient pas fait et qui leur manquerait, un petit théorème à ajouter dans leur corpus mathématique. Le problème, c'est qu'il s'agit, moi j'appelle ça des foi épistémiques, c'est-à-dire c'est une intuition fondamentale, non prouvée, mais qui te sert de début à tous tes raisonnements, sur comment fonctionne le monde. Et donc tout est interprété à travers ce prisme, ce qui fait que, je vais donner un exemple très concret. Parmi les choses immatérielles, il y a le lien social qui a de la valeur, et qu'ils ne sont pas que très difficilement capables de prendre en compte. Eux, tout de suite, ils vont commencer à réduire ça, par exemple, je sais pas, si tu prétends aimer quelqu'un, en fait, ce sont tes hormones qui, par l'évolution animale depuis des milliards d'années, fait que voilà, tu crois que tu es amoureux, tu crois que tu as des liens sociaux, en fait, non, c'est physico-chimique, etc., c'est mécanique, tu es poussé à cela. Et c'est ça qui fait la valeur. Tout est réduit comme ça au mécanisme. Qui pour eux ne sont pas des supports, mais sont l'intégralité de la réalité exprimée. Et par exemple, le fait que, en zone euro en particulier, se généralisent les taux d'intérêt négatifs sur la dette publique, sur les dettes publiques.
Ça les rend fous, ça. Hein.
Voilà. Normalement, ça devrait être totalement aberrant. C'est-à-dire, si le financier ne fait qu'égoïstement, pour lui, pour son propre compte, investir là où là, il y a le meilleur rendement pondéré par le risque, eh bien, il devrait ne serait-ce que garder ses billets et garder son argent plutôt que de l'investir à perte dans une dette à taux négatif. Ça veut dire une dette dont il récolte moins qu'il n'a investi. Et pourtant, bah, et ça se fait, la preuve, c'est on a quantité d'enchères où ça se fait, c'est factuel, massif, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que font ces investisseurs, c'est qu'ils cherchent, quitte à payer, à s'affilier à des communautés politiques, à ce que leur investissement soit bien tamponné comme faisant partie de telle communauté politique, de l'Allemagne, de la France, etc. La Belgique, beaucoup de pays hein, sont dans ce cas. Et donc ils ont beau relancer le crédit pour dire « vous inquiétez pas, le crédit va nous dispenser du déficit public », tout le monde se réfugie sur la dette publique, quitte même à payer pour ça. Quoi. C'est...
Sinon tout s'effondre, c'est-à-dire que même les business sur lesquels... Par exemple, si je suis investi dans une entreprise qui dépend de marché public, mais que cet État fait faillite, ben je suis quand même embêté, parce que ça veut dire que la valeur de mon entreprise, de l'autre côté, elle va chuter, peut-être plus que le petit peu d'argent que je vais perdre en soutenant l'État.
Mais pour te dire à quel point, ça reste un problème de foyer épistémique, et que même les raisonnements que nous venons de tenir, même beaucoup plus élaborés, ne parviendront jamais à emporter totalement la conviction, il y a un moment, il y a les libertés de celui qui écoute qui est en jeu, c'est que tu en auras beaucoup, par exemple sur Zero Hedge, qui t'expliqueront que la conclusion logique de tous ces faits, c'est au contraire qu'on n'aurait jamais dû sortir de l'or qu'on a évoqué il y a un instant, et donc que vous voyez bien que le lien social, ça ne marche pas, ça n'a aucune valeur. Tu vois, ils vont totalement renverser la conclusion.
Bah, c'est-à-dire que c'est toujours ce qui se passe aussi quand on arrive à une incompréhension par rapport à un phénomène nouveau, mais c'est vrai quand on apprend aussi, quand on fait des sauts dans n'importe quelle matière, hein, que ce soit... Alors pour moi, ça va être plus les mathématiques ou la physique ou ce genre de choses. Mais bon, quand on fait des sauts comme ça, il y a deux réactions quand on n'arrive pas à comprendre. C'est de revenir à une vision plus... Revenir aux fondamentaux, comme on dit souvent au rugby aussi d'ailleurs. On revient aux fondamentaux, c'est on revient avant d'être allé trop loin.
On considère comme étant les fondamentaux.
Voilà.
C'est pas les mêmes pour tout le monde.
Essayer de reprendre les choses à la base. Ou alors on a réussi à passer le cap. Mais tout le monde n'arrive pas à passer le cap. Je veux dire, donc alors c'est toujours la lutte entre... l'étonnant aussi de la tradition et l'étonnant de l'innovation. Alors le problème, c'est que c'est pas forcément l'un ou l'autre.
C'est-à-dire, je voudrais pas être trop pessimiste quant à la nature humaine et déprimer les auditeurs. Tout le monde n'est pas autiste qui, une fois ayant sa foi, quelle qu'elle soit, serait entre guillemets coincé ad vitam aeternam dedans. C'est-à-dire, plus les faits s'accumulent, plus quand même la personne en son fort intérieur est interrogée. Et si elle voit, par exemple, que les sociétés prospèrent malgré tout nettement mieux avec ce truc bizarre, incompréhensible et aberrant, il y a un moment, elle se dit « Est-ce que c'est pas quand même ma vision du monde qui a un problème ?» Tu vois, par exemple, pour ce qui est de la fin de l'état noir, pourquoi ils ont tant de mal à convaincre qu'il faut retourner à l'or ? Parce qu'on a longtemps fait ça, pendant tout le 19e, qu'on avait régulièrement des dépressions économiques, que l'économie, malgré tout, a beaucoup mieux fonctionné à partir du moment où on a géré la monnaie socialement. Et donc, tu vois, c'est un combat d'arrière-garde. Ouais. Et même quand ils sont vraiment intimement convaincus, ils le sentent et ça les questionne profondément intérieurement.
Oui, mais alors du coup, c'est l'effort le plus important à faire, c'est de se changer soi-même plutôt que d'essayer de changer l'extérieur. Enfin, non, c'est l'effort le plus important à faire à titre personnel, oui. Parce que dire qu'on veut changer l'extérieur, en général, c'est pas soi-même qui allons le faire, c'est on voudrait convaincre les autres de le faire à sa place. Mais, ou plutôt que de se changer l'intérieur, qui est plus dur, hein, qui peut paraître plus difficile, mais qui in fine est plus simple. C'est-à-dire qu'il est plus simple de se changer sa vision du monde pour qu'elle colle mieux à la réalité, que d'essayer de dire je vais changer tout l'univers pour changer les lois de la physique, par exemple. ça va prendre un peu de temps. Donc, mais alors, ce qu'on dit là, c'est quand même intéressant. Et ça nous, forcément, ça nous pose les vraies questions fondamentales qui posent sans doute les vraies questions de fond. Et c'est pour ça que dans la troisième partie, on va pouvoir continuer sur cette notion épistémologique. Mais on va parler de ces économistes. On a parlé d'Olivier de Lamarche, mais on va en citer d'autres. On va donner d'autres exemples de ces économistes qui n'arrivent pas à sortir de la boîte, hein, qui restent un peu coincés et qui ont des problèmes, parce qu'effectivement, le monde ne correspond pas à la description qu'ils voudraient en avoir. Le simple fait déjà que ça leur pose problème, les taux négatifs, c'est que ça leur pose problème la réalité. C'est-à-dire qu'il y a bien une réalité qui est là, et ça leur pose problème. Ils n'arrivent pas à débloquer là-dessus. On va en parler, mais avant, on va faire notre première pause musicale, parce qu'on arrive à la moitié de l'émission. Et on revient tout de suite après pour poursuivre ce petit panorama économique de l'actualité du moment en avril-mai 2015. A tout de suite, donc, après notre pause musicale. Tu sais comment sont les musiques sur Monnaie
Elles
Libre ?
Sont libres.
Excellent, très bien. A tout de suite sur Monnaie Libre.
Nous voici de retour sur Monnaie Libre, toujours avec Jean-Baptiste Frappé-Monnaie. Donc, dans la première partie de l'émission, on a parlé un peu de CQE, on a expliqué d'où venait cette monnaie avec laquelle les banques centrales faisaient des achats, pourquoi elles le faisaient, on a vu tout ça. Et puis on a commencé à essayer de discuter aussi sur le discours même des économistes, qui est d'ailleurs un discours qui est souvent un discours incohérent quand on passe de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'on voit bien que ils sont pas d'accord entre eux, mais souvent ils sont pas d'accord avec eux-mêmes d'ailleurs aussi. ils sont dans un vrai problème, donc on essaie d'analyser ça. On a parlé notamment donc d'Olivier Delamarche, on a parlé du problème épistémologique qui revient à essayer de voir les choses sous le seul angle matériel, et qu'on a essayé de montrer qu'à notre avis c'était une incohérence fondamentale, c'était nier l'économie elle-même. Et on a expliqué pourquoi, mais on va continuer d'autres panels. Alors je crois que tu avais un exemple à nous donner typique hein, d'action d'économistes, de discours économique et d'action économique des économistes actuels qui posent ce problème.
Oui, une anecdote qui à mon avis en dit beaucoup. On aurait pu croire qu'avec quand même la crise des subprimes et quantité d'économistes officiels qui, comme des dizaines à Rennes d'Angleterre, n'ont rien vu venir, qu'il y aurait un renouvellement, il y a quand même quelques années qui sont écoulées depuis. Eh bien en fait, non. Et non seulement il y a très peu de renouvellement dans le milieu des économistes, mais c'est même le milieu qui résiste le mieux au changement. et on en a eu un exemple très concret, dernièrement en France, avec le projet Mornay, d'une section hétérodoxe d'économie universitaire.
L'économie basée sur les territoires, je crois, quelque chose comme ça.
Ouais. Voilà, qui mélange l'économie pure avec, enfin si tant est qu'une économie puisse être pure, mais bon, avec justement les sociétés, les territoires, les institutions, parce que c'est une réalité qui est enchâssée dans le reste du réel, c'est pas un monde parallèle, sans connexion. Pour faire court, Geneviève Fioraso, qui est la ministre de l'enseignement supérieur, a tué le projet dans l'œuf. Et ce, suite... alors au début, ça avait commencé avec une tribune, il y avait pas mal de gens qui signaient, il y avait des professeurs comme Gaël Giraud, André Orléans, Frédéric Lordon, il y avait aussi des professeurs étrangers comme Steve Kinn, qui a écrit un excellent bouquin, Debunking Economics, récemment traduit en français, que je recommande. L'imposture économique. Et le gros problème, c'est que ça n'a pas plu
à la Banque de Suède.
À Sir. Alors, si ce n'est la Banque de Suède elle-même, en tout cas, à notre Nobel d'économie.
Alors, c'est pas un Nobel, hein. C'est le.
C'est, voilà. Officiellement, voilà. C'est le prix de la Sveriges Riksbank. En mémoire d'Alfred Nobel en sciences économiques.
Oui, non mais il faut être précis parce que justement...
Et ça ne fait pas partie du testament d'Alfred voilà. Nobel. Oui, voilà. C'est un prix qui a été rajouté simultanément aux mêmes conditions que le Nobel, enfin sauf le comité qui décerne, qui est lui par la Banque de Suède, par la banque en question. En fait, ça a été ajouté beaucoup plus tardivement. Hein. Les prix Nobel, c'est en 1901 et celui-là, il est décerné en 1969 pour le premier. Bref. Notre Nobel d'économie, Jean Tirole, a écrit une lettre à Geneviève Fioraso en disant que ce serait une catastrophe.
Une lettre publique, d'ailleurs, elle a été.
En tout cas, elle a été publiée.
Elle a été publiée.
Mais je ne sais pas si c'est avec le consentement de l'auteur. mais on peut la trouver facilement.
Il a dit que c'était n'importe quoi. Et que, voilà.
Donc il a dit que c'était une catastrophe. Et il a dit des choses qui, à mon avis, sont fausses. Et au moins une chose qui est vraie. Alors, parmi les choses, les choses aberrantes qu'il a dit, c'est que il est important que la section d'économie reste unique, chapeautée par... l'ensemble des pairs. Or, l'ensemble des pairs étant dominé par son courant de pensée orthodoxe, ultra dominé, c'est très simple, ça fonctionne par cooptation, ça risque pas d'évoluer intellectuellement, puisqu'ils se cooptent entre personnes qui se donnent quand même largement raison. Et donc, les personnes se donnant raison, elles vont pas changer de discours, enfin, c'est contradictoire. D'où l'idée justement qu'avaient les hétérodoxes d'avoir une section d'économie séparée. En fait, c'est un peu comme si, moi je l'interprète comme ça, c'est Jean Tirole qui refuse qu'il y ait une loi antitrust au sein de l'économie, c'est-à-dire, s'il y a un monopole, eh bien c'est très bien comme ça.
Surtout que c'est
l'oligopole, l'oligopole, j'en fais partie, il est très bien, faut pas le changer, faut pas le perturber, faut pas subdiviser la section d'économie en plusieurs où il y aurait des concurrents. Non, non, AT&T doit rester uni. Voilà. Et là, ce qu'a dit de vrai néanmoins, il y a plusieurs choses quand même qu'a dit de vrai Jean Tirole dans cette lettre. Je ne voudrais pas avoir un jugement facile et sans nuance. C'est d'une part qu'effectivement, il n'est pas prouvé que cette section d'économie parvienne à atteindre ce but de renouvellement de la pensée économique. Et il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, le problème des hétérodoxes, c'est qu'en fait, ils n'ont en commun très souvent que d'être trop divergents par rapport aux orthodoxes pour que les orthodoxes les reconnaissent comme faisant partie d'eux-mêmes. Mais entre eux, ils sont loin d'être d'accord sur tout.
Oui.
Et il y a vraiment de tout.
Il y a de tout, oui.
Aussi bien en termes d'opinion qu'en termes de qualité. De...
Très nébuleux, là, les arguments.
Voilà, c'est parfois extrêmement nébuleux. C'est parfois... Et il est vrai que il faut qu'ils se confrontent, si ce n'est au père, du moins à la réalité d'une manière ou d'une autre, pour qu'ils soient un peu forcés justement de sortir de leur bulle.
Est-ce qu'ils ne devraient pas plutôt créer des entreprises pendant 10 ans et puis essayer de faire un peu d'économie réelle et puis après
Tu ne crois pas si bien dire. Moi, c'est la conclusion à laquelle je suis parvenu.
Oui.
C'est-à-dire que j'avais au début le projet de faire une thèse doctorale et finalement, je me suis dit non, j'en ai ras-le-bol de ces trucs. Je ne veux plus du milieu académique et donc je me barre, je fais ce que je peux, j'essaierai de monter une entreprise, en tout cas j'en ai le désir. On verra ce que ça donne, mais c'est ma décision. Et donc je m'expatrie, enfin bref, qu'importe.
Tu veux t'expatrier carrément.
Ouais.
Et pourquoi si tu as l'idée de créer une entreprise, tu veux t'expatrier? Pourquoi pas la créer en France alors?
Parce que j'ai besoin aussi de changement culturel, j'ai besoin de.
T'as besoin de respirer
me... Ouais, j'ai besoin de respirer en fait. La France a beaucoup de qualités, mais là c'est un peu trop bloqué, j'ai besoin de changer d'horizon, bref. Passons, ça c'est ma vie. Ça...
Oui, mais non, mais c'est intéressant parce que c'est quand même intéressant pour l'auditeur de savoir que quand même tu fais des études d'économie à un très bon niveau, hein, tu es dans l'école de Jacques Sapir notamment, le HESS, et puis tu as écrit quand même un livre quand même extrêmement bien documenté. Enfin, je veux dire, voilà, donc tu as a priori un certain bagage, culturel et intellectuel, et tu as décidé que même pour étudier ce domaine-là, qui est un domaine a priori théorique au départ, tu avais besoin de passer par l'expérience. Et moi, j'ai envie de te dire, en tant que fan de science, qu'il n'y a pas d'autre méthode. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'est pas en mesure de pouvoir se confronter à une expérience, quel que soit le domaine conceptuel ou théorique que l'on élabore, et soi-même se confronter à l'expérience, si on n'est pas en mesure de pouvoir faire ça, eh bien, on est devant quelque chose qui n'est pas justement scientifique.
Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais moi, ce n'était pas mon problème, parce que de l'expérience, en macroéconomie, qui plus est pour le néo-chartanisme, ça concerne vraiment comment l'État gère la monnaie. Donc tu peux pas recréer ton État à volonté pour faire tes expériences. Mais ce que tu peux, et c'est ce que les néo-chartanistes font, c'est que tu prends les données concernant le fonctionnement des États, il y a quand même des expériences qui sont faites, à défaut d'être les siennes telles qu'on l'aurait voulu, et on peut déjà avoir plein d'enseignements. Moi c'est vraiment le milieu académique dont je ne peux plus, parce que justement, voilà, ça m'étonne pas du tout. Cette histoire avec Jean Tirole dont nous parlons, mais vraiment pas du tout, parce que c'est ce qu'on constate depuis très longtemps, c'est-à-dire Steve King l'explique très bien dans le bouquin que je conseillais il y a un instant. Déjà, il est vrai que la qualité il est vrai que les hétérodoxes peuvent parfois être des gauchistes aigris, hein. Moi je me souviens par exemple de Bernard Maris qui disait lui-même. C'était avec je sais plus quel biographe de Keynes très connu, enfin bref, qu'il s'était réconcilié avec l'économie. Pendant longtemps il n'en pouvait plus, il avait écrit notamment des bouquins comme Les économistes au-dessus de tout soupçon, et racontait, balançait tout sur les coulisses, à quel point c'était écœurant. Il a fait partie des économistes très très à gauche. Il était notamment économiste à Charlie Hebdo,
ouais.
Et il a fait partie des personnes qui sont mortes lors des
attaques. Oui, tout à fait, ouais.
Donc effectivement, c'est difficile d'avoir un tel milieu aussi, une école de pensée aussi en bloc, monolithique, inamovible, enfin qui évolue pour ne pas évoluer. En plus, c'est vraiment, Psychologiquement, c'est dur. Steve King dit aussi que le plus dur, c'est quand l'étudiant qui décide d'être orthodoxe, de ne pas sacrifier, quand il commence vraiment à comprendre, et que justement, il joue pas en fonction de son intérêt en disant bon, si ça marche, faut pas trop se poser de questions, faut y adhérer même si on a des doutes, et puis. Eh bien, c'est très très dur pour l'étudiant qui est seul, seul contre sa classe, contre le milieu académique, etc., de, entre guillemets, remonter le courant, et ne serait-ce que de trouver d'autres hétérodoxes. Encore, ça va mieux depuis ces dernières années, parce que ça gagne quand même. Mais moi, je, quand je regarde mon propre parcours, j'ai morflé. c'est très dur au début.
Ouais.
Et effectivement, tu peux facilement soit t'arrêter à des trucs nébuleux parce que t'as plus envie de combattre précisément, parce que de toute façon, tu sais qu'en fait, ils s'en foutent. Alors toi aussi, tu t'en fous, entre guillemets, d'eux. Tu peux finir gauchiste, anarchiste en disant je plus jamais d'autorité, et moi de fait c'est un peu ce que je fais quand je les envoie paître. C'est dur, hein, c'est pas.
Ah oui, mais c'est peut-être comme ça.
Il y a un coup psychologique.
On progresse aussi. Hein.
Les débats sont très feutrés, fleur à moucheter, comme on dit. Hein. Mais en fait, c'est très exigeant psychologiquement. Jean Tirole. A dit donc cette chose vraie que quand même il faut se confronter au réel, même si c'est dur, mais lui il veut pas simplement qu'on se confronte au réel, il veut que le réel verrouille, hein, que le verrouille.
Ouais.
c'est là où pour moi il y a un vrai problème, et
il est pour que lui contrôle, en fait il voilà. Aimerait pas lui être contrôlé, par contre
lui a totalement adhéré au truc, donc c'est pas un problème pour lui. C'est quand tu comment dire, quand tu es dans une secte mais que tu crois en la secte n'est pas un problème. Tu vois, c'est quand des doutes et à vouloir en sortir que là ça pose d'énormes problèmes.
Ça dépend à quel degré d'éthique on se conforme soi-même. Est-ce qu'on accepte.
Mais alors justement, Jean Tirole est en crise.
Ah.
Et non, en général, ils sont en crise.
Ah.
C'est-à-dire que dans leur optique, ils étaient comme un peu Olivier Delamarche à sa manière. C'est-à-dire réductionniste, rationaliste.
Alors attention, parce qu'Olivier Delamarche, juste pour mettre un petit bémol, il n'est pas vraiment économiste puisqu'il est gestionnaire de fonds.
Je sais bien.
Simplement, comme sa vision est assez macroéconomique, il a un discours.
Je parlais du terme de foi épistémique.
Voilà.
Or, le problème, c'est qu'ils ont bien été obligés de reconnaître que la rationalité des individus n'avait pas obtenu le maximum, l'optimum social désiré. Hein. Que concrètement, la libéralisation financière s'était plantée, mais là, dans les grandes largeurs. Et donc, ils ont été obligés de passer à. D'intégrer les sentiments des gens, autre chose que juste leur raison, qui certes existe, mais n'est pas forcément le point dominant. Et ils sont passés à ce qu'on appelle. C'est l'école néoclassique, la synthèse néoclassique telle qu'on la connaît, mais avec ce qu'on appelle la neuroéconomie. Donc, ils revisitent les fondamentaux. En gros, ils ouvrent des crânes, on met des sondes dans les cerveaux, on regarde comment ça fonctionne.
C'est l'horreur.
Et je n'exagère qu'à moitié. Et on essaie en gros d'avoir des fondements épistémiques plutôt que d'avoir.
C'est toujours cette volonté de contrôle, quoi. Il n'y a jamais de lâcher prise.
Voilà. Plutôt que d'avoir une équation de l'individu qui, entre guillemets, déduite logiquement, parce que s'il est vraiment un individu rationaliste, égoïste, maximisateur de son profit, etc., ça doit être ça son équation.
Oui, ça c'est le fondement de l'économie classique.
Voilà, là on change un peu, c'est-à-dire on dit, on va chercher à savoir quelle est son équation, de manière un peu plus réaliste, donc on fait des tests, et puis on en déduit une équation, plus ou moins, et après ça revient plus ou moins aux mêmes conclusions, ce qui est attendu, puisque de toute façon, là encore je renvoie au livre de Steve King, qui est excellent sur ce point. Déjà avant, en fait, entre les prémices et les conclusions, les raisonnements étaient totalement foireux, c'était même pas cohérent. Notre autre quasiment Nobel d'économie français, c'était Gérard Debreu, et c'est superbe. Il a eu son Nobel d'économie pour un théorème qui démontre que on ne peut passer de l'individu au social pour l'individu, la théorie de l'individu maximisateur et égoïste, etc. On peut retrouver les mêmes lois au niveau social. Que si tous les individus sont clonés avec les mêmes préférences. C'est-à-dire s'il n'y a aucun intérêt à passer au social.
Ouais.
C'est on passe au social s'il n'y a pas de social. Voilà. Normalement, ça aurait dû être compris comme une démonstration par absurde de l'impossibilité de passer à une généralisation de ces arguments, etc. Bien non. Lui, il a dit, eh bien, ces conditions étant remplies, voilà, nous avons démontré que on peut passer au niveau social, et donc nous passons au niveau social, comme s'il n'y avait aucun souci. Et il a eu un Nobel d'économie pour ça. Bon, il n'est pas enregistré comme français, parce qu'il a été naturalisé américain.
Un prix de la Banque de Suède.
Oui, mais l'abus de langage... Le nom est très long et a été fait pour faciliter l'abus de langage. Donc, on a précisé la chose, mais bon, je ne vais pas à chaque fois...
Oui, bien sûr. Et alors, il y a d'autres cas comme ça d'économistes qui nous servent des discours, là, qui ne collent pas avec la réalité, ou qui ou eux-mêmes sont quand même un peu embêtés. Est-ce que tu peux nous en citer d'autres, au moins un autre cas?
D'économistes embêtés.
Des économistes embêtés.
Il y en a plein, il n'y a que ça.
Oui, mais un autre exemple.
Juste maintenant,
autre exemple.
Ce qu'il faudrait, c'est des économistes embêtés qui ne fassent pas semblant de rien. Quoi. C'est surtout ça le problème. Autre exemple, c'est. Je pourrais te.
Est-ce que tu connais Jean-Marc Daniel, par exemple? Tu l'écoutes?
Non,
un
mais
peu
je pourrais te donner, par exemple, c'est Cohen.
Oui, Eli Cohen.
Cohen qui a écrit, si je ne m'abuse, ils sont devenus fous, revenons, il a écrit Revenons au capitalisme et Adam Smith revient, ils sont devenus fous, je crois.
Ouais. Ah oui.
Et son idée.
Bah, il annonce la couleur, lui.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ce cher bonhomme? C'est que, bon, il constate le désastre, hein, il est quand même bien obligé. Et là, il dit, c'est pas possible. Et donc, lui aussi, il veut revenir à des relations sociales plus saines. Et il s'attaque à l'un des problèmes de la pensée économique dominante. C'est, alors, ils appellent ça dans le jargon, le problème de l'agent. Entreprise-agent, si mon souvenir est bon. Alors, quel est ce problème? C'est très simple, c'est entre le propriétaire et le gérant, il y a une divergence d'intérêts, qui est que le gérant, bah, il peut être viré à tout moment, etc. Donc lui, son profit, c'est ce qu'il touche en salaire, en émoluments divers et variés, alors que le propriétaire, lui, c'est la valeur de l'entreprise qui fait son profit. Bon, je vais dire ça autrement. La divergence, c'est que le gérant peut être viré à tout moment, donc lui, c'est ce qu'il arrive à retirer de l'entreprise qui fait son profit. Mais le propriétaire, lui, il veut aussi retirer le maximum de l'entreprise. Et donc notamment que le gérant lui coûte le moins cher, lui rapporte le plus. Enfin, chacun en fait veut que l'autre coûte le moins cher et lui rapporte le plus.
Ouais.
Donc il y a forcément un conflit à un moment. Et du coup, l'entreprise est mal gérée, c'est-à-dire que tu peux avoir même des fraudes, tu peux avoir une quantité de mal.
Il n'y a pas d'équilibre, stable. S'il y a un milieu, il est instable, quoi.
Voilà. Mmh. Et quand tu raisonnes en termes d'individus égoïstes, rationnels, maximisateurs, effectivement, c'est insoluble comme problème. Nash a essayé de résoudre ce problème, ça fait un théorème qui est très aimé par ce genre d'économiste, sauf que là aussi les conditions d'application font qu'en fait ça n'est jamais appliqué, et Nash lui-même était devenu fou, il a été plusieurs fois interné en hôpital psychiatrique, donc bref, ce genre de solution.
Mais ça c'est pas un critère de non-validité. Cantor, qui était un mathématicien de génie, a aussi fini à l'hôpital, et pourtant ce qu'il a trouvé est tout à fait...
Moi je trouve que ça signifie quand même attention, danger, si jamais on veut suivre la même voie.
Danger veut pas dire aussi... faux, hein. Je veux dire, on peut être en danger dans le vrai. Hein.
Alors, ça peut être vrai comme démonstration pas l'absurde. Mais si on veut que le sens soit ça, là, danger maximum.
Mais moi, je ne parle pas de ça en particulier, je parlais du cas général.
Ouais.
C'est pas un critère de
C'est un indice.
De faire de l'hôpital.
C'est pas un critère, c'est pas une preuve définitive,
c'est un indice.
Donc il essaie de revenir. Il dit « Revenons au capitalisme d'antan, on était propriétaire de ce qu'on gérait et gérant de ce qu'on possédait. » C'est l'idée qu'il a poussée en avant. Sauf que ça c'est une vieille ancienne. C'est-à-dire que en fait, dès le 19e siècle déjà, on disait « Mais c'est une catastrophe, le capitalisme, en devenant des sociétés anonymes, perd sa raison d'être, c'est n'importe quoi, tout le monde ment à tout le monde arnaque tout le monde. » Et ça n'a fait que s'aggraver depuis. Et en plus, il y a un autre problème, c'est que dès que tu as une entreprise, tu as plusieurs personnes. Donc quand bien même tu es le propriétaire gérant, tes subordonnés, tu fais comment? Tu es le garde-chiombe qui les fouette, qui les surveille, qui les espionne à tout moment. Tu as amélioré effectivement le problème sur un point, Mais il faut là aussi que tu passes au sentiment, tu prennes en compte les gens, de pourquoi ils font ou pas les choses, et que tu fasses plus que leur soutirer le maximum. Tu vois, c'est pas une relation très saine, en fait.
Alors, j'ai eu un cas, juste pour donner un exemple, non, ça, on peut pas généraliser sur la base d'un exemple. J'avais un ami qui était entrepreneur et qui me disait, je lui posais des questions sur comment il avait géré son
histoire. Les vrais entrepreneurs ne font pas que ça. Hein,
oui, bien sûr.
Sinon, ça ne marchera pas.
Et là, il me disait que... je lui demandais si c'était enthousiasmant, etc. Il disait, oh, tu sais, passer un certain étage, quand on devient un gros, etc., tu passes ton temps, il me disait, à désamorcer des bombes. J'ai demandé qu'est-ce qu'il entendait par là. Ben, en fait, en gros, il fallait qu'il passe son temps à essayer de désamorcer les pièges que se tendaient ses subordonnés, donc les différents directeurs de département de son truc, ils se tendaient des pièges les uns les autres pour essayer d'obtenir la place qu'ils convoitaient. Donc ils passaient son temps à désamorcer des bombes et non pas forcément à gérer.
Voilà.
C'est pas évident, effectivement, de partager un même navire pour aller dans une même direction. Ça arrive que ça marche, hein, mais ça dépend d'une alchimie un peu plus subtile.
En gros, le truc est le suivant, c'est que si on est quand même largement passé à ce modèle-là, c'est parce qu'il a malgré tout un meilleur rendement que simplement l'entreprise propriétaire possédant, ou et avec une petite équipe, où concrètement, tu vas pas faire des Airbus avec. Hein. Enfin, y a un moment, faut... Si tu veux voir plus grand, il faut disons entre des organisations sociales que tu sois plus performante que ça. Mais le rendement, par rapport à l'effort consenti, le rendement est assez faible. Même si c'est efficace, c'est pas très efficient.
Il peut aussi y avoir des phénomènes. On va revenir après à la théorie sur l'épistémologie un peu. On va travailler un peu sur le fondement. Hein. Mais juste pour finir avec ça, il peut y avoir aussi des problèmes de taille. Hein, parce que certains types d'objets peuvent fonctionner une certaine taille et passer une taille plus grande peuvent ne plus fonctionner. Alors exemple typique pour ça que vous pouvez regarder en détail si ça vous intéresse, c'est en physique, c'est tout simplement les étoiles. Hein, voilà. Pour qu'il y ait une étoile qui se forme, il faut déjà qu'une certaine quantité de matière soit présente. En dessous, il n'y a pas d'étoile. On peut avoir une planète qui se forme,
hein, ou des... Elle n'entre pas en combustion, tu veux dire.
Voilà, elle n'entre pas en combustion. Passer à une certaine taille, elle rentre en combustion, on a une étoile, mais au-delà d'une autre taille, elle s'effondre sur elle-même et elle ne brille plus.
Noir.
Voilà, trou noir ou une naine blanche, etc. Voilà, donc il y a une taille pour laquelle certains types de phénomènes peuvent fonctionner, en dessous de laquelle ça ne marche pas, et au-delà de laquelle ça ne marche pas non plus. Donc ça, c'est quelque chose auquel on peut réfléchir, qui n'est pas évident et qui est quelque chose qui n'est pas donné a priori non plus. Ça ne veut pas dire en plus que c'est quelque chose de fixe, hein. Ça peut être un paramètre qui évolue en fonction aussi de conditions extérieures, mais ça, il peut y avoir une taille au-delà de laquelle un effondrement est possible. Alors, moi je pensais à l'URSS aussi, peut-être qu'un des problèmes de l'URSS c'était la taille, que c'est trop gros, et peut-être qu'un des problèmes de l'Europe c'est la taille aussi, que c'est trop gros, et que c'est peut-être des tailles trop grosses peuvent conduire, pourquoi pas, à des effondrements. Ça reste une hypothèse, je ne suis pas en train de dire que c'est vrai. Bon, bref, alors... Pour finir cette émission, je voulais revenir sur un peu l'épistémologie. Alors c'est quoi l'épistémologie quand on parle d'un modèle théorique ou d'une approche de la réalité? C'est les fondements sur lesquels on s'appuie pour essayer de la décrire. Par exemple, en physique, on va parler d'atomes, on va parler de matière, on va parler d'énergie, on va parler éventuellement d'espace-temps si on fait de la relativité. Voilà, ça c'est des fondements qui nous servent de base pour ensuite établir des expériences et des réflexions, etc. Alors, dans le néochartalisme notamment, moi, il y avait un point que je voulais discuter avec toi, pour essayer de le creuser, puis voir aussi comment la théorie relative de la monnaie elle-même aborde ce sujet, où tu as répété plusieurs fois, et encore dernièrement, hein, je sais pas s'il y a un mois ou deux, je sais plus, tu as fait un post, il me semble bien, qui rappelait ce point, qui est que la monnaie, selon le néochartalisme, donc, elle est acceptée essentiellement parce que elle permet de payer impôts et taxes. C'est-à-dire que les impôts et taxes sont réclamés dans cette monnaie. Donc la monnaie permettant de payer impôts et taxes, entre autres, parce qu'on peut pouvoir aussi les payer autrement, mais au moins la monnaie permet de les payer, donc elle est acceptée pour pouvoir régler impôts et taxes. C'est ça, c'est une des définitions de l'acceptation de la monnaie selon le néochartalisme.
Alors, selon, elle est plus vaste. Ouais, selon le néochartalisme, c'est, comment dire, c'est le principal facteur d'acceptation de la monnaie, et si on n'en retient qu'un, c'est celui-là qu'il faut retenir, parce que en pratique, ça c'est très pragmatique de ce point de vue-là, le néochartalisme, c'est celui qui a le meilleur pouvoir explicatif de très loin pour savoir si une monnaie sera acceptée ou non, ou à quel degré. C'est-à-dire, ça t'explique très bien que Après, ça dépend du pouvoir de l'État justement à faire fonctionner ou pas ses impôts. Ça t'explique très bien que si jamais l'État, même s'il a un service fiscal très performant, qu'il est vaste, qu'il est puissant, etc., mais qu'il n'émet pas assez de monnaie, bah, t'as des monnaies rivales qui se mettent à germer parce que t'as une pénurie de monnaie, donc pour fonctionner, les gens tournent vers des alternatives. Ça t'explique aussi très facilement qu'à l'inverse, en cas d'hyperinflation, c'est-à-dire quand l'État émet beaucoup plus de monnaie qu'il n'en demande par les impôts, bah, les gens pouvant très facilement se satisfaire ses obligations fiscales, ils se tournent pour avoir des réserves de valeur, pour avoir une monnaie plus stable vers d'autres monnaies. Ça t'explique aussi pourquoi...
Ou d'autres valeurs. Ça dépend s'ils les considèrent comme monnaie ou pas.
Voilà, oui, effectivement. Pas. Alors, justement, ça, c'est... Tu parlais d'épistémologie. Il n'y a pas d'épistémologie officielle du néo-chartalisme, chez quelque auteur que ce soit, ni d'ailleurs chez les chartalistes historiques. Ce qu'il y a, en revanche, c'est une attitude... j'ai envie de dire fonctionnaliste, il y a une épistémologie implicite qui est, on regarde comment ça fonctionne, factuellement, on regarde qu'est-ce qui marche ou pas, et on s'attache à ça. Et du coup, les questions philosophiques sur, mais alors qu'est-ce que, en dernière analyse, la monnaie dans le ciel des idées, on s'y intéresse pas. Et on ne s'intéresse pas non plus à, ou très peu, à est-ce que c'est juste ou pas. On dit d'abord qu'est-ce qui est et comment on peut l'améliorer. Du coup, par exemple, pour ce qui est de l'impôt, force est de constater que, bah, je suis désolé, mais tu vas dans un pays, tu regardes quel est l'État qui administre le pays en question, quelle est la monnaie qui est choisie pour ses impôts, et comme par hasard, c'est la monnaie dominante sur la zone en question, c'est la monnaie avec laquelle tu commerceras plus facilement toi-même si tu veux économiquement fonctionner là où tu es. Ça marche vachement bien, donc du coup on l'adopte. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on serait incapable de considérer qu'on puisse accepter d'autres monnaies. Ça fait longtemps depuis toujours en fait, les chartalistes admettent. Mais il y a une différence entre avoir une monnaie idéale qu'on pourrait proposer, et puis si les gens ont confiance en elle, et bien rien ne pourra l'arrêter, et le fait qu'ils aillent en prison parce qu'à force d'austérité, ils ne parviennent pas à rembourser leurs impôts. Tu vois.
D'accord. Alors je vais maintenant donner le point de vue de la théorie relative de la monnaie là-dessus, donc sur qu'est-ce qui fait que la monnaie est acceptée ou pas, et par rapport à cette définition, ce constat que fait le néo-chartalisme. Alors je ne vais pas le réfuter, mais je vais apporter, disons que selon la théorie relative à la monnaie, le point de vue est différent. Donc il est plus vaste, mais il n'est pas forcément en contradiction avec ça, c'est qu'il peut y avoir concomitance. Moi je dirais que par rapport au fait que l'État demandant à être payé en impôts et taxes dans une valeur économique, de facto, effectivement, elle peut être utilisée comme monnaie. Mais la théorie relative à la monnaie va plus profondément. Elle se pose la question de quelle est la nature de la monnaie. Alors, ne pas que l'état des choses, parce qu'elle ne se place pas dans un état de simple observation des faits, mais elle se place comme étant que, y compris le penseur de la théorie est un homme, il fait partie de l'économie, il n'en est pas extérieur, donc il n'est pas un observateur qui serait passif de l'objet, mais il en est un observateur actif, tout comme toute proportion gardée, parce que c'est quand même pas la même chose, mais en mécanique quantique, on ne peut pas, en gros, hein, pour faire simple, séparer l'observateur de l'expérience. Bon, il y a des subtilités, etc., mais voilà. Donc il en fait partie. Donc il ne peut pas être que dans une option, je dirais, passive, mais aussi active. Donc la monnaie est un objet innovant, est un objet en mouvement. Et essentiellement, la monnaie est celle, parmi les valeurs économiques, qui est acceptée comme métrique. Alors, qu'est-ce qu'une métrique ? Une métrique...
unité de mesure.
C'est une unité de mesure commune qu'on utilise pour, notamment, évaluer ce qu'on appelle la courbure d'un espace. Bon, en gros, pour faire simple, je peux mesurer les hauteurs, par exemple, sur la Terre. Je mesure les hauteurs en mètres, et j'ai établi une métrique où je vais pouvoir distinguer les montagnes, des vallons, etc. Et on imagine que pour l'économie, c'est un peu la même chose. Parce que j'ai choisi telle ou telle valeur économique de référence, je peux estimer les prix dans cette valeur économique, et j'obtiens des creux et puis des bosses. Et la réalité est que si je change de valeur économique, j'obtiendrai pas tout à fait le même schéma. Hein, parce qu'en fait, il y a des valeurs économiques qui sont présentes et d'autres qui ne le sont pas. Et les transferts d'une valeur économique en une autre ne sont pas des transferts a priori, forcément, proportionnels. Ça, c'est une erreur aussi qu'on fait souvent
quand on aborde les sciences au début, on croit que la plupart des actions de changement d'unité sont tous proportionnelles. C'est pas vrai. Il y a plein de cas en science où les transformations ne sont pas proportionnelles. Je vous invite à découvrir ça, à poser la question à des scientifiques. Vous verrez que on peut, si on change d'unité de mesure, selon la nature de cette unité, on n'obtient pas des changements proportionnels. Si vous changez par exemple de référentiel selon la vitesse en relativité, par exemple, vous n'avez pas un changement proportionnel. C'est une loi de transformation bien plus compliquée que la simple proportionnalité. Elle paraît proportionnelle pour des petites vitesses, mais dès que les vitesses sont grandes, ça ne marche plus. Donc la monnaie est une métrique, c'est une valeur de référence commune établie sur une zone économique. Alors, mais commune, elle peut être commune à peu de gens, en fait. Ils peuvent choisir une monnaie à eux, hein. C'est ce que font les Celtes, par exemple. C'est ce que pourrait faire aujourd'hui le tenant d'un étalon or, par exemple. Une des grandes surprises que j'ai eues quand j'ai discuté avec des tenants de l'étalon or, c'est de leur dire, mais vous attendez quoi pour utiliser l'or comme monnaie? Vous pouvez le faire, dès aujourd'hui. Vous utilisez l'or, vous voyez bien si ça fonctionne ou pas.
Ils attendent que les États choisissent.
Voilà, ils voudraient que les autres le fassent à leur place. J'ai dit, mais non, faites-le vous. Attendez pas que les autres le fassent. Vous pouvez d'ores et déjà aujourd'hui chiffrer vos prix en or, etc. Après, vous verrez, est-ce que c'est pratique de le faire et d'utiliser cette unité de mesure, sachant que l'or pourrait être utilisé pour faire des achats? Oui, bien sûr. Moi, je suis sûr, si vous allez proposer un lingot d'or pour acheter ceci ou cela, il est probable que vous trouviez preneur. Ça risque par contre d'être un peu compliqué et difficile à faire. Mais c'est faisable, c'est envisageable. Et s'ils ne le font pas, c'est peut-être qu'il y a justement une question plus profonde derrière. Donc la question se pose de ce point de vue-là. Donc a priori, la monnaie est choisie parce qu'elle répond à cette fonction de métrique et parce qu'elle répond non seulement théoriquement, épistémologiquement, éthiquement aussi, mais aussi d'un point de vue, bien entendu, pratique. C'est-à-dire que si ça reste que théorique et que ça ne peut pas être mis en pratique, ça ne marchera pas non plus. Alors c'est pour ça que je donne souvent l'exemple aussi d'ailleurs du cas où, au Larzac, on peut considérer que même l'euro n'est pas vraiment une monnaie. C'est-à-dire étant donné qu'il y en a beaucoup moins qu'ailleurs, il est probable qu'au Larzac, bon c'est une image, hein, le Larzac, je ne parle pas forcément du Larzac actuel, mais du Larzac, je dirais hippie, mais on utilisera peut-être beaucoup plus le troc et une certaine forme de troc avec éventuellement une certaine généralisation parce que tout simplement il n'y a pas beaucoup de banques au Larzac ou il y en a très peu. Ou si le Larzac, ça ne vous va pas comme exemple, vous prenez un coin du Sahara ou un endroit où il y a des hommes, mais pas la monnaie qui est dominante dans une autre zone économique. Il va falloir utiliser autre chose comme moyen de référence. Et ensuite aussi, ça rejoint l'idée qu'a développée Olivier Aubert, avec laquelle je suis pleinement en phase, qui est que, parce qu'on a pris conscience du code monétaire, c'est-à-dire de la façon dont tel ou tel type de valeur économique est créée, coproduite, par exemple au bénéfice des uns au détriment des autres, etc. Parce qu'on a pris conscience de cette dimension de symétrie ou de non-symétrie de tel ou tel type de valeur économique, on va ensuite pouvoir choisir de l'accepter ou pas selon ce principe éthique. Ce qui n'est pas évident, parce qu'il faut avoir pris conscience du code monétaire, mais c'est une perspective dont Olivier Aubert pense qu'elle est émergente aujourd'hui, de la même façon qu'à la Renaissance. À la Renaissance, il était émergent de pouvoir représenter des tableaux avec une perspective en profondeur, une perspective spatiale beaucoup plus travaillée qu'avant. Les tableaux étaient quand même beaucoup plus, je dirais, à plat, un peu comme ce qu'on peut voir sur les murs égyptiens, quoi, hein. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour faire simple, on peut dire ça comme ça. Donc, il peut y avoir une nouvelle façon d'approcher les phénomènes, de perception des phénomènes, de perception donc des codes sous-jacents au système. Alors, c'est ce qu'on retrouve aussi, tu vois, c'est par exemple dans les logiciels, hein. Aujourd'hui, on a des gens qui, par une considération éthique, mais en connaissance de cause aussi de la profondeur de la chose, vont choisir des logiciels libres et non pas des logiciels privateurs. Mais tout le monde ne peut pas le faire si notamment ceux qui n'ont pas pris connaissance de la différence entre utiliser un système non libre et un système libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut déjà étudier qu'est-ce que ça veut dire. Et quand on a compris ce que ça voulait dire, qu'on a choisi éthiquement de dire « mais ça c'est mieux, donc je vais utiliser ça », on peut faire le choix. Évidemment, tant qu'on ne le voit pas, on est dans l'ignorance, on ne le fait pas. Donc ça c'est un point de vue, mais sur perspective plus élevée, plus profond, sur le fait que il est possible d'envisager qu'une considération éthique en connaissance de code du code monétaire, nous fasse choisir tel ou tel type de valeur économique comme monnaie ou tel ou tel autre type de valeur économique. Et alors, notamment le fait donc que, en pratique aussi, ce soit utilisé, bien entendu, c'est aussi un facteur qui peut être contraignant, mais si la monnaie existe, évidemment, bon, ben, on va aussi faire avec et on essaiera de choisir celle qui est la moins inéthique, hein, par exemple, aussi. Donc le fait que l'État l'accepte, bien sûr, ça peut être un critère de choix pragmatique, en attendant d'avoir mieux, tout comme, tant que j'ai pas de logiciel libre à ma disposition, mais ma foi, je fais avec ce qui existe. Bon, à noter aussi quand même que d'un point de vue de la théorie relative à la monnaie, le fait que les banques fassent crédit implique que les gens, pour rembourser ce crédit, vont accepter de la monnaie bancaire aussi pour pouvoir rembourser ce crédit. Donc c'est un peu le pendant privé de cette contrainte étatique. Donc il y aurait cette double contrainte aussi. Mais si on n'est pas que dans la contrainte et qu'on réfléchit au niveau du code, alors on va pouvoir dire non, je vais utiliser un logiciel libre plutôt qu'un logiciel privateur. Et s'il n'y en a pas, ben, je vais faire en sorte qu'il en existe, donc je vais me mettre à en développer. Et puis on voit bien aujourd'hui ben, qu'il y a des gens qui ont adopté le logiciel libre. Alors certes, c'est pas tout le monde. Eh bien, de la même façon, il y a des gens qui aujourd'hui ont adopté le Bitcoin, bon, qui a d'autres problèmes, parce que au point de vue de la monnaie, la TRM va dire, la TRM, attention, le Bitcoin n'est pas une monnaie éthique non plus, parce qu'elle n'est pas libre, même si le code logiciel est libre, parce que eh bien, les co-utilisateurs de cette monnaie ne sont pas coproducteurs au même titre. De la même façon que dans l'euro, si je suis proche de la banque centrale, comme on l'a dit au début de l'émission, je ne suis pas dans la même situation que si je suis au Larzac. Et donc, on peut essayer de comprendre cette possibilité, d'établir ce que pourrait être une monnaie symétrique. Après, il y a les théorèmes de la TRM qui arrivent dessus. Une monnaie libre a une certaine forme, c'est pas n'importe quoi. Et à partir de là, on pourrait choisir une monnaie de ce type-là. Et on peut en voir les résultats, d'ailleurs, au niveau expérimental, hein, puisque je sais pas si tu as suivi, mais il y a un jeu qui s'appelle La Corbeille. Non, ben c'est un jeu qui permet de jouer donc avec un certain nombre de gens, jusqu'à 10, 15, 20, jusqu'à 400, je crois, elle a fait jusqu'à 300, 350, je crois, Sybille Saint-Giron, qui permet de jouer avec des cartes pour simuler une économie. On joue avec une, on échange des cartes, on crée des valeurs économiques, on cumule les valeurs économiques que l'on peut créer, etc. Et on peut jouer à ce jeu avec une monnaie, donc on définit une monnaie qu'on va pouvoir utiliser pour échanger, pour s'acheter les cartes les uns les autres. Et selon le type de monnaie qu'on met en place, une monnaie dette émise par exemple par un centre de décision, ou une monnaie à crédit mutuel, une monnaie à dividende universel, on peut montrer, et no, moi j'ai fait attention avec Sybille à essayer d'étendre le jeu, y compris sur une période de temps qui soit significative, c'est-à-dire au-delà de 80 ans, avec les naissances et les morts qui vont avec, c'est-à-dire les joueurs, chaque tour, il y a des joueurs qui sortent du jeu et des nouveaux joueurs qui rentrent, en tant que décédés et nouveau-nés, donc sur une période aussi longue, et on voit à la fin, selon le type de monnaie qu'on a utilisé pendant le jeu, des résultats qu'on peut compiler et qu'on peut, va pouvoir comparer. Voilà. Et on peut, on remarque à quel point la centralisation de l'émission monétaire au départ centralise la création de valeur à l'arrivée. Et à quel point la décentralisation de l'émission monétaire au départ décentralise aussi la répartition des valeurs économiques à l'arrivée. Alors bien sûr, c'est une simulation. Et c'est imparfait, ça ne prétend pas, disons, simuler l'économie dans toute sa complexité, mais ça donne quand même une indication que, même sur un jeu donné, le code monétaire, bien entendu, va influer sur le type de résultat qu'on attend à la fin. Même si on ne sait pas à la fin qui sera, bien sûr, forcément gagnant ou pas, hein, ça va dépendre du jeu, mais on voit bien la différence de structure assez nette, hein, très fortement marquée, sur cet exemple qui est un début d'expérimentation. Voilà, donc j'ai éclairé... y compris donc ce point, je crois que c'est bien qu'on ait les deux, les deux approches sur le sujet. Donc ben merci Jean-Baptiste, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ce qu'on a vu aujourd'hui ?
Bien, merci à toi de m'avoir invité, merci à tous de nous avoir écoutés.
Merci à tous les auditeurs sur cette émission donc Monnaie Libre, et puis je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une nouvelle émission. Avec, je vous laisse avec notre générique fétiche No More Dreams de Nighter. Au revoir.